Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Toujours sur RDY et toujours depuis ce Woodstock Festival à Oust, en l'occurrence, avec quelques membres de Kunta. Bonsoir.
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 Et bonsoir.
Présentez-vous.
Et ben moi, je suis Thomas, je suis batteur actuellement de Kunta. Et c'est un plaisir d'être ici.
Pourquoi actuellement? Tu vas partir bientôt?
Non, bah, je compte rester. On est là depuis le début. Je pense qu'on a une équipe plutôt soudée.
Tu t'es niqué là, mais faut que tu répondes. T'as d'autres projets?
Bah bien sûr, on a tous d'autres projets. Après, ça reste le projet du cœur, Kunta.
Alors moi, je m'appelle Quentin. Je suis guitariste dans Kunta et j'ai évidemment plein d'autres projets. Mais je suis kuntiste du cœur et
voilà. Je t'ai vu jouer des synthés aussi quand même, tu me mens un peu.
Kunta, là, il y a une volonté de passer d'instruments. Léo, le saxophoniste, va jouer des claviers. On a composé un nouvel album qui est beaucoup plus pop et qui s'inspire beaucoup de sonorités où il a fallu se procurer des synthétiseurs venus tout droit de l'esprit années 80. Et maintenant, on bouge de poste à poste et tout le monde joue un peu de tout, sans complexe, et ça nous permet d'avoir une mise en scène à peu de frais. C'est-à-dire que on est obligé de bouger sur scène, de mettre la guitare dans le dos, de jouer des claviers. Jovan chante et a toujours été chanteur et claviériste. Et puis Léo, il a, en tant que saxophoniste... jouer des claviers, jouer de la flûte, commencer à jouer dans des delays, dans des pedalboards. Moi, il m'arrive de jouer mal du clavier, mais on assume, on vient, on joue en fonction des arrangements. Voilà, parce que on a construit un disque avec un réalisateur qui s'appelle Julien Jusset à Microcosme Studio, et on a essayé pour ce nouveau spectacle de suivre un maximum le disque. Donc même si on joue mal des claviers. Et bah on s'est intéressé, on a acheté les claviers qu'il fallait et on les joue.
Par exemple, la partie où toi tu dois jouer un truc assez compliqué de cette main et un skank de l'autre, normalement c'est Evan qui le joue dans l'album.
Normalement c'est Evan qui le joue dans l'album, mais il est bien occupé à chanter parce qu'il a beaucoup de textes. Donc je viens le soulager, mais c'est surtout une volonté d'enlever la guitare. C'est-à-dire que Kunta, ça a commencé comme un groupe de garage assez rock où ça jouait beaucoup basse, batterie, guitare, beaucoup ce combo rock. Par-dessus, il y avait effectivement un petit peu de touche de clavier Jovan, du chant, plus les cuivres. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on a un peu fait le tour de cette formule où il y a tout le temps de la guitare, tout le temps de la basse, tout le temps de la batterie. Et on s'est dit, bon, il faut que je passe le micro aux copains parce que là, ils sont...
C'est pas grave.
En fait, on s'est dit,
on enlève
un peu la guitare parce qu'au bout d'un moment, tout le temps de la guitare, c'est rébarbatif.
C'est bien que ce soit le guitariste qui se rend compte de ça.
Ah bah moi je suis le premier content à jouer un petit peu moins de guitare, ça c'est sûr.
Moi je m'appelle Colin, je suis bassiste de chez Kunta. Bon voilà, hein, tout simplement, hein, on a commencé le projet ensemble, on est tous des potes. Du coup on joue pas mal sur cette énergie là de groupe, parce qu'on se connaît depuis très très longtemps et du coup on essaye d'insuffler un dynamisme collectif. Et qui s'est bien trouvé ce soir, quoi. Parce que c'était un bon petit festival, on était plutôt pas mal attendus quand même, parce qu'ils nous ont bien fait de com, on avait déjà joué chez eux il y a 3 ans. Et il se trouve que c'est nos plus grands supporters, quoi. Si on peut parler comme ça, ils sont vraiment très bons, ils nous ont bien mis à l'aise, et puis le public, c'est toujours phénoménal ici. Et voilà, et Kunta, c'est cool, je pense qu'on a fait, quand même pas mal le job, c'est cool.
T'as dit des potes, mais des potes de où?
Bah des potes d'enfance, hein. Vraiment. Et bah deux potes de Saône-et-Loire, hein, de Bourgogne, quoi. Enfin, pas, ils sont pas tous bourguignons, on est bien d'accord. C'est vrai, ils ne sont pas tous bourguignons. On a tendance à les inclure dans le lot. Mais bref, parce qu'il y a eu une énergie collective qui s'est créée il y a 10-15 ans ensemble. Et il y a peut-être 6-7 ans, enfin 6 ans peut-être, par le biais de Léo, saxophoniste.
Salut.
Notamment. Qui a eu l'idée de, voilà, de retrouver un peu les énergies. C'est-à-dire que moi je faisais de la basse, Constant il faisait de la guitare, Thomas de la drum. Yo, il était bien dans le flow, dans le hip-hop à ce moment-là. Il fait du clavier. Flugabonis avec Nance, on était tous un groupe et on s'est dit, allez, pourquoi pas faire quelque chose ensemble. Et voilà, ça commence à naître un petit peu, quoi, avec deux EP, un album qui sort en mars. On essaye de trouver la petite formule qui peut marcher, quoi.
Tout est parti d'un voyage en Australie, de Léo.
Tout est parti d'un voyage en Australie. Je peux m'asseoir ? Alors, c'est vrai, j'étais en Australie. On va raconter les jeunesses du truc, ok. Salut, c'est Léo. Ça va, la forme, et toi ? Cool. Alors, du coup, Léo, saxophoniste, flûtiste, claviériste et artisan également. Parce que sur scène, j'ai petite salopette d'artisan. Je sais pas si tu as vu. Si vous avez des demandes pour du placo, de la peinture, je peux intervenir à tout moment.
En fait, c'est pas ton vrai métier.
Non, effectivement, c'est ça. En fait, c'est avant tout une passion, parce qu'en fait, la musique, c'est une passion. Ce n'est pas un vrai métier. On est là vraiment parce que on aime ça, et c'est ce qui nous réunit. Toi, c'est plutôt pratique, c'est genre. Et d'arriver à lier la passion musicale et mon métier d'artisan, c'est hallucinant, parce que tu vois, cet après-midi, moi, je suis arrivé plus tôt. En fait, je suis arrivé hier, et parce qu'en fait, ils avaient des petits travaux à faire dans la salle de bain. En fait, ils m'ont dit, tu vois, parce qu'en fait, on est copains, on a joué il y a 3 ans. Ils m'ont dit, effectivement, on est un peu en galère parce qu'au niveau de la douche, il y a des carreaux qui sont un peu pétés, qui sont un peu décalés. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'en fait, quand j'étais vraiment, tu vois, genre, en communication, c'est plus que de la communication, c'est vraiment genre, en fusion.
En fusion
avec le carrelage, j'ai pensé à un morceau tout de suite qui était éthiopien, parce qu'il faut savoir que le carrelage vient d'Éthiopie. Et du coup.
T'es pas dit, mais avec le CV qu'il a, il vient pas poser des carreaux de plâtre.
Non, tout à fait, mais il n'est pas non plus éthiopien. Ça, est-ce que tout le monde le sait ?
Et l'Australie dans tout ça ?
Alors, l'Australie est un très beau pays qui est en Océanie. Il y a également la Nouvelle-Zélande. Et ben du coup en Australie, je suis en voyage en Australie et à Melbourne, Coulos et le lendemain, tu vois. Ben non, alors je m'appelle Léo Yon, je suis né le 13 juillet 84. Apparemment c'était un. Ah non, c'est pas Saint-Maurice, gros, représente. C'est Lignon, mais c'est pas le même village.
Je suis de santé.
J'aurais été
pour les
verts. Non, putain. Ça part en couille, c'est génial. J'adore. Non, mais. La jeunesse du truc, du projet, c'est qu'effectivement, je suis en voyage en Australie. Je suis à Melbourne et dans un quartier hyper actif, trop cool, tu vois. Il y a plein de concerts, il se passe plein de trucs tout le temps. Des bars et tout, c'est vraiment hyper bien. Et je passe souvent devant un resto éthiopien. Mais un truc qui est bizarre en Australie, c'est que souvent, enfin même quasiment tout le temps, tous les restos, mais un peu les bars, en fait, il y a uniquement une devanture. Quand tu dis, mais il a l'air hyper. C'est quoi ce resto ? Genre, il n'y a rien, il y a 2 tables, les gars. Moi, j'ai envie de bouffer. Enfin, tu vois, c'est. Donc, moi, je suis passé devant le resto éthiopien, c'est quand même intriguant, The Horn, tu vois, genre la corne et tout machin. Puis The Horn, peut-être le cuivre, tu vois, le saxophoniste. Bon bref, et la veille, non mais voilà, évidemment, bah bref, désolé, mais moi j'ai fait un peu le rapprochement parce que j'ai quand même fait des études.
Et la drogue est bonne en Australie.
Et la drogue est bonne en Australie, ça dépend. Ça ira, je peux en prendre, ouais. Et en gros, la veille du départ de Melbourne pour aller à l'ouest et tout, avec le camion, voyage de Français qui font le tour de l'Australie, original. Et en fait, on décide d'aller dans le resto, de le tenter. Et là, en fait, ce n'était pas qu'une devanture. Derrière, en fait, il y avait vraiment un truc de backyard, toi, genre de jardin énorme. En fait, tu commences à rentrer dedans et en fait, tu dis, mais je commence à entendre de la musique que tu peines derrière, d'une espèce de truc. Etude jazz, mais t'entends cette transe qui est là. Et j'entends du sax et j'aime le saxophone car j'aime le saxophone. Et j'entends du saxophone, j'entends du saxo. du saxophone, du saxo, du saxo. Et j'entends du, tu vois, j'entends ça, et aussi et un autre cuivre et tout machin, puis j'entends que ça rappe au loin, je fais bah délire. On passe une bonne soirée chérie quoi. Et j'entends ça et tout, puis nous on vient juste bouffer, tu vois, on est là. Et là en fait je me retrouve en face, je pensais juste venir bouffer un bout. Et en fait il se trouve que la tenancière du RAD est éthiopienne. Et en fait elle est chanteuse éthiopienne et son compagnon est australien, saxophoniste éthiopien, non pas du tout, saxophoniste australien qui est vachement dans le milieu du jazz, pas mal le groupe, et qui a monté ce groupe là de musique et de jazz à fond quoi, tu vois, trop bien. Et là pour l'occasion, régulièrement ils invitent des rappeurs, et à ce truc là je tombe là-dessus, je fais putain mais ça vraiment c'est incroyable, ça défonce. Et tout de suite je me dis hey, je connais, j'ai des copains, moi j'aime, enfin tu sais genre je visualise le truc, parce que la musique éthiopienne, ce qui est dingue dans cette musique là, c'est que ces gammes là en fait font que à la fois ça va être mélancolique et à la fois ça va être hyper joyeux, et tu vois il y a vraiment un truc alors doux amer quoi, il y a vraiment ce truc là de c'est hyper étonnant comme sensation, en fait tu kiffes de ouf et à la fois c'est hyper mélancolique, c'est triste, mais tu vois il y a vraiment ça, et c'est tout le temps hyper intense, il y a quelque chose de hyper fort dans cette musique là
et très psyché.
Ouais, et psyché par le côté vraiment par la transe, tu sais, ce ternaire là c'est long,
et l'orgue.
Alors après Kunta du coup c'est ouais, après il y a Zéler là que nous on a voulu amener, et parce que l'orgue était surmixé.
Non, mais c'est vrai que l'orgue, ça prend une place qu'on le voit pas dans toutes les musiques. L'orgamon, enfin, c'est pas un orgamon, c'est un farfisa.
Mais dans les tio jazz, ça s'entend quand même.
Ouais, carrément. Bah, ça fait partie de cette musique.
Tiens, Ismo, tu prends le micro et maintenant ça va être à Yovan de parler.
Ouais, moi je trouve que l'orgue, il a un rôle prépondérant dans la musique éthiopique.
Bah, complètement, complètement. Et comme. Comme dans beaucoup de musique des un peu vintage des années 70-80 où t'avais beaucoup d'or comme ça et t'avais ce son un peu crado, et maintenant dans les prods très léchés tu l'entends plus trop ce genre de son, et nous en fait on aimait bien ça et du coup on a voulu le... En fait ça a été une pièce maîtresse, tu vois, genre on s'est dit vas-y orgamon et après derrière guitare basse batterie classique, mais effectivement le farfisa il donne une couleur vraiment qui est un peu dominante dans le projet. Ouais.
Et toi t'es chanteur?
Ouais.
Et t'écris des textes?
Ouais.
Et tu proposes sous cette forme-là?
J'ai plusieurs formes, c'est-à-dire j'ai des textes d'autres groupes, et puis quand j'ai la flemme, je prends les textes et puis je les transpose dans ce groupe-là. Et du coup, voilà.
Donc t'as tes textes?
Non, parce qu'ils me chantent tout le temps là-dessus, mais en vrai, tous les textes de Kunta, tous les textes de Kunta, c'est que des textes originaux, et voilà. Ouais,
qui sont calibrés sur l'écriture, quoi, voilà, sur la composition.
Souvent, voilà, genre Léo il ramène une prod ou Nance, ou moi des fois je compose, enfin on compose tous un peu, et puis.
Alors t'es musicien également?
Oui, oui.
Ouais.
À la base, moi je suis violoniste, et je me suis mis au rap vers 15 ans, tu vois, à l'adolescence, parce que j'écoutais ça en même temps, c'était ma génération, et voilà. Et du coup, je me suis mis à fond, et puis après on a monté ce groupe-là, et. Là, je me suis mis plus sérieusement et voilà.
Ok. Et jamais essayé de violon sur cette proposition alors?
Non, enfin, si, j'ai un groupe où je le fais, où je mélange un peu les deux, mais dans Kunta, c'était pas trop l'esprit, dans les Deliretio et tout, c'était pas trop le. C'est vraiment rap. Déjà, rap farfisa, ça fait déjà pas mal de boulot, donc voilà.
Ah ouais. Ouais, voilà. Vous m'aviez dit tout à l'heure deux EP déjà.
Deux EP, ouais, qui est cru.
Alors, comment vous travaillez?
Bah, deux EP, et surtout, j'ai envie de dire, un album. Carif, c'est ça l'info qu'on en retient, je crois, ce soir. Comment on travaille? Eh ben, on travaille principalement dans une cave au Périscope. Et à Lyon, tout à fait. Fameux sol de giga actuel. Là.
Ouais, le Périscope, sûr.
Et on fait des heures et des heures à tourner les trucs pour que ça groove à main de bonnet. Non, je sais pas, la méthode de travail, ouais, bah... Tu veux dire la méthode d'écriture, peut-être? Parce qu'après,
oui.
C'est toujours un travail délicat et c'est un truc qui se crée, tu vois. Et le son, je pense qu'on l'a pas mal trouvé.
Qui amène quoi?
Bah,
ça part de qui?
Bah, ça part de qui? Écoute, je pense que il y a trois
principes. Il y a une prod de base, tu vois. Genre Léo, il va ramener une prod. Moi, je vais ramener une prod ou Nance ou voilà. Et ensuite une tourne. Et derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, après, je ramène les textes, donc du coup, ça calibre un peu plus le truc. Genre, s'il y a des couplets, des refrains, on essaie d'être pas trop dans le couplet-refrain classique. Et on essaie de... Voilà, en fait, tel qu'on l'entend et tel que la prod, tu vois, ce que raconte la prod, on essaie de s'adapter à chaque fois. Et après, on répète, et ben, on fait tourner. Et il y a un moment en live, forcément, à force de le jouer, on change des trucs, tu vois, forcément. Et chacun se réapproprie les trucs sur la prod.
Même on répète, du coup, pour le coup, même on répète... Par exemple, si ce que tu disais à Yovan à l'instant, en fonction du morceau qui est amené par les personnes qui ont pu préparer des choses, en fait, parce que c'est ça le délire, c'est qu'en fait, dans l'idée de monter un répertoire, en fait, c'est que chacun amène de la matière et la matière, elle est plus ou moins développée, tu vois. Genre, ça va être moi les gars, j'ai une tourne de drum, moi les gars, j'ai une idée de basse ou j'ai un truc, et des moments, t'as des trucs qui sont plus développés où j'ai un morceau à vous proposer. C'est ça, par exemple, on peut essayer ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que tu penses quoi de la batterie? Est-ce que tu te sens ou pas ou machin? Et c'est quoi la... Enfin, tu vois, dans ce délire-là. Avec toujours, de la part du compositeur, une histoire, en fait. Parce que t'as passé... Ça fait 3 semaines que tu bosses dessus à la maison. Je veux dire, t'as écrit une batterie qui n'est pas forcément une super batterie ou un machin qui est peut-être bien ou pas bien. Tu sais pas, en fait. Toi, tu t'es mis dans une espèce de boucle de création à la maison en disant, bah, j'imagine qu'on peut jouer ce truc-là avec Kunta. Et après, à partir de là... Tu racontes l'histoire, tu t'expliques au gars l'histoire que tu veux raconter avec ce morceau-là. Et pour le coup, Yovan, ce qui est assez fort pour Yovan, c'est qu'il est compositeur et... Enfin, ce qui est assez fort... Hein. Compositeur et chanteur. Donc en fait, tu vois, il y a un truc d'histoire globale. Pour, par exemple, non, c'est moi et tout le monde, en fait, le reste du groupe qui ne sommes pas chanteurs, quand on ramène un morceau à proposer, et ben en fait, on va avoir une idée musicale, on va avoir une ambiance. En tout cas, je crois que je veux rencontrer un truc qui va peut partir par là ou par là, et on va aller voir avec Yo. Ben, je sais pas, t'en penses quoi? Tu sais, on pourrait creuser là-dessus. Surtout, en fait, on fait d'abord des allers-retours. Alors que par exemple, non, c'est moi, l'autre cuivre, ça nous arrive d'écrire des morceaux, tu vois, alors des prods entières. Et en fait, il y a un délire vraiment d'interaction avec Yo en disant genre. T'en penses quoi, c'est cool ou c'est pas cool, on envoie tout le monde en disant les gars, vous pensez que c'est quoi, c'est cool, c'est pas cool, je retravaille pas. À partir du moment où il y a une version qui peut plaire, tu vois, en tout cas, de base de travail, on voit avec Yo et ouais, vas-y, tiens, on peut, ouais, j'imagine ça comme sujet, parce que ton morceau il me fait penser à ça, en fait, un morceau qu'on a joué ce soir que j'ai écrit qui s'appelle Regression, bah il me dit, putain, il y a un truc où je pense à l'espèce de régression, parce qu'il y a un truc, je sais pas, il y a un truc lourd là-dedans, je pense à ça comme sujet, t'en penses quoi, ok, cool, machin, on s'envoie les prods, et puis après on le joue, on l'écoute tous, on le joue, et puis en fait, entre la version d'origine et la version après du groupe, bah c'est. Il y a ça, le squelette va être là, tout va être là le plus possible, mais en fait l'âme qui est donnée, enfin, et puis ce qui va être modifié ou comme en fait le morceau va vivre, il va prendre sens en fait quand ça va être joué par le groupe, et quand on va, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, on le rouille comme pas possible, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est la transe. Donc pour qu'on arrive à faire sonner une partie, faut la mettre en transe, voir comment elle sonne en transe, tu vois.
Et du coup, votre rapport à l'étio jazz, ça a été de... Enfin, toi, t'as vécu ça en Australie, mais du coup, vous, vous avez fait quoi? Vous êtes mis à écouter, à devoir poncer ce style?
Ouais, bah, il m'a recommandé des groupes, et puis il m'a fait écouter déjà à la base ce qu'il avait écouté au Canada aussi, parce qu'il y avait l'Australie. Il y avait l'Australie pour Léo, il y avait le Canada pour Nance, où il avait écouté cette musique-là aussi, où il y avait des mecs qui kickent sur de l'étio jazz. Et du coup... Moi en fait, ouais, je kiffe le hip-hop, mais j'avais pas du tout cette culture-là, donc je me suis un peu adapté sans forcément avoir, tu vois, même le coup de cœur, tu vois. Et petit à petit, je me suis dit, ah ouais, en fait, il se passe un truc. Et puis même moi, dans mon rapport à la manière dont je pose, je me suis dit, ah ouais, en fait, il faut penser les choses différemment. C'est plus des instrus, c'est plus des trucs qui sont dans la tendance forcément actuelle. On s'est juste dit, on va faire un truc où on a un groupe avec des musiciens et des mecs qui jouent un instrument, il faut qu'il y ait un tout en fait. Et du coup, même sur l'album qu'on a fait là récemment, il n'y a pas que de l'étio, mais par contre, on essaie de créer un son de groupe plus qu'un son de chanteur, kicker, leader, tu vois. Et voilà. Donc, et voilà, c'était ça un peu, c'était cette idée de son, tu vois.
L'étio jazz, c'est surtout une base de travail au final. C'est vachement assez vite parti sur autre chose. On peut pas se dire qu'on a un groupe d'étio, d'étio jazz ou de musique éthiopienne, tu vois.
Il y a plein de. Il y a plein de morceaux qui sont pas du tout étio jazz. On s'est dit, on a fait aussi avec nos influences à nous, mais c'était une base, effectivement. Comme dit Thomas, c'est une base de travail. Et puis maintenant, on fait notre truc. Mais il y a beaucoup de morceaux qui sont inspirés, en tout cas, des gammes étio, voilà, de base. C'est parce que c'est un peu le. Quand on compose pour Conta, on se dit, bah tiens, on va aller dans cette direction-là, mais après, ça. Nous, tu vois, on vient pas d'Éthiopie, on n'est pas d'Éthiopie, on est juste des mecs qui kiffent cette musique. Et
des blancs en plus.
Eh bah, complètement, voilà. Puis c'est des questionnements aujourd'hui.
Blond.
Bah ouais, blond, yeux bleus, tout bien.
Voilà, non mais en vrai, c'est des questionnements qu'il faut avoir dans le sens où.
En vrai, on est tous comme ça. Hein. C'est
vrai. Si tu veux faire une musique authentique, tu fais quoi? Des traditionnels bretons, j'en sais rien, tu vois. Enfin, à un moment, c'est juste une musique qu'on kiffe et du coup, on essaie de se la réapproprier avec nos influences sans prétendre faire de l'ethio jazz pur et authentique, tu vois. On fait juste notre musique à nous avec cette influence-là de base parce que c'est une musique qu'on kiffe, tu vois. C'est juste, voilà, c'est juste ça. Après, on n'a aucune prétention d'être dans les règles, de, voilà.
Kunta, donc je vais vous libérer, mais j'ai deux petites questions. Hein. Une pour toi directement. Qu'est-ce que t'écris? Qu'est-ce que tu veux dire?
Alors Kunta, en fait, c'est vraiment le premier groupe où j'écris des choses plutôt, on va dire, de manière générale, un peu engagée. Alors qu'avant, je n'y aurais même pas pensé. En fait, les premiers trucs de Kunta, c'était des histoires à moi, perso, des histoires de meufs, des trucs de... Enfin, vraiment... Et à un moment, c'est Léo, tu vois, qui était à l'initiative du groupe, qui m'a dit « Ouais, ce serait bien que t'écrives un truc un peu plus conscient. » Je vois un morceau conscient sur une prod, c'était Régression, un morceau qui s'appelle Régression. Et du coup là-dessus, je me suis dit ok. Enfin, il m'a pas donné le titre du morceau, mais c'est vas-y. Et du coup, je suis allé sur Régression. Et depuis ce morceau-là, j'essaie à chaque fois de raconter des choses. Et du coup, je me fais chier parce que je suis pas anglais non plus. Mais du coup, dès qu'il y a des morceaux, on a fait un morceau sur les enfants syriens qui s'appelle Aolad avec une chanteuse syrienne qui s'appelle Clément Zarkan, une pote à nous. Qui est, voilà, dont on est assez content. Il y a un morceau sur le prochain album qui s'appelle Karma qu'on a enregistré avec Rebecca Roger et Margot de la Tour et qui ont un groupe qui s'appelle Paranda la Cruz, j'ai oublié, c'est ça, voilà. Et là c'est un morceau sur les sans-abri, tu vois. Et à chaque fois j'ai souvent des moods un peu mélancoliques dans mes prods à moi, par exemple, tu vois. Léo, il aura d'autres trucs, d'autres délires, mais moi j'ai ce truc-là. Et là, je me dis, bon, voilà, j'écris un truc sur les SDF, j'essaie de raconter une histoire et je me mets du point de vue du SDF, genre c'est le SDF qui parle, des trucs comme ça. Et les meufs font le refrain, voilà. Et à chaque fois, maintenant, vraiment, le délire avec Kunta, c'est d'avoir voilà, des textes plutôt conscients, tu vois. Et quand on a envie de s'autoriser des trucs autres, on le fait, mais en tout cas, de manière générale, c'est ça le truc, c'est que. C'est un peu, tu vois, ce truc du reggae aussi où. T'as une espèce de critique un peu humaniste, sans faire de name dropping, de genre ce qui se passe en ce moment, si t'es des Darmanin ou des machins, on cite personne, on est juste dans un truc un peu humaniste, comme dans le reggae en fait, tu vois. Et juste un peu humaniste, et à la fois avec du flow et des trucs, c'est un peu ça le délire. Et moi je saurais pas faire de la chanson à texte avec juste de l'actualité, ce qui se passe, ça m'intéresse pas, et puis je saurais pas le faire, donc voilà.
C'est plutôt, comme tu disais, universel, donc quelque chose qui pourra rester dans le temps. Enfin, c'est un message qui se maintient parce que ça bouge pas trop.
Ouais, bah après ça, on l'espère, on maîtrise pas, mais tu vois, après, oui, dans le délire, c'est plus un truc général, tu vois. Genre, par exemple, Régression, ce morceau-là, ça représente bien ce qu'on fait. Ça représente un peu, les déviances, de manière générale, des êtres humains. C'est des grandes phrases, mais en gros, c'est ça. Et de manière générale, les textes, faut que ça soit un peu ça. Tu vois, c'est juste des trucs où. Et on privilégie quand même le flow et la zik, tu vois, toujours. Donc après, ça, c'est une base. Tu vois, genre, on va parler des SDF, on va parler de la régression de la société en général. Quoi qu'il en soit, c'est la zik, les mises en place, le flow aussi qui compte avec cette base-là, tu vois. On est vraiment là-dedans, tu vois. Genre, faut que ça reste une musique dansante et tout ça, quoi. Voilà.
Vous êtes plus que deux, Thomas, faut que je t'ennuie un peu.
Bah, si tu veux, vas-y, dis-moi.
En live, c'est toujours le cas, mais on prend des morceaux qui sont plus longs, il y a une plus grosse phase de transe. Est-ce que c'est possible d'avoir ça un jour sur un album, ça, je veux dire, pourquoi est-ce que c'est que pour le live qu'on vrille pendant des heures?
Alors, pourquoi c'est que sur le live? Bah, parce que déjà, c'est fort avec des énormes subs et que c'est ça qui fait qu'on va au concert. Il faut le dire. Après, sur un disque, de toute façon, on a une contrainte qui a toujours été c'est la contrainte du support, tu vois. De faire des morceaux de 10 minutes sur 10, ça a toujours été...
Mais il y en a d'autres qui l'ont fait là, tout ça.
On fera un concept album avec Kunta, on le fera. On fera un...
La longueur d'un titre, tu vois, et des arrangements sur CD, c'est que le disque, c'est cadré, c'est ce qui fait aussi que c'est cool.
Est-ce que vous pensez à un format au moment...
La frustration.
Hein ? Est-ce que vous pensez à un format au moment où vous le faites ? Il faudrait que
un
ça passe
à de disque live, ouais. Ouais,
format titre, cool, format radio.
Bah, moi j'adore, mais franchement, c'est ça qui est cool, c'est de jouer en live. Et c'est clair que après, ça demande. Pourquoi pas. Là, après, c'est vrai qu'on fait un premier album, on n'en est pas à penser à faire un live enregistré, tu vois, mais moi, c'est le délire de jouer en live, en tout cas, et d'enregistrer en live, c'est ce qui fait kiffer, je trouve, en tant que musicien. La production en studio avec toutes les, tu vois, les délires de pouvoir faire des boucles de batterie, de pouvoir couper partout, reprendre, c'est un outil qui est trop cool, tu vois. Mais à la fin en soi, en tant que musicien, c'est vrai que t'as tendance à te dire de faire un jet, tu vois, une prise et paf, tu vois, le morceau il est dans la boîte, c'est ultra cool.
C'est Combini qui pose des questions, studio ou live ?
Ah bah...
Choisir.
C'est dur, franchement c'est dur comme question. Moi, bah live mille fois. Après, l'expérience du studio, c'est une remise en question de ouf, tu vois. En tant que musicien, t'es là d'un coup, tu te dis « Ouais, attends, je joue comme ça, et c'est pas bien. »
Je suis mauvais ?
Bah c'est la première fois que tu t'entends dans un casque, tu te dis « Bah... » Ok, bah ouais, mais en studio, faut pas jouer comme ça en fait. C'est juste qu'il faut être, tu vois, précis, minutieux. Tu poses le truc et c'est dur, quoi. Mais c'est très kiffant. Enfin, mais live quand même, mille fois. Parce que voilà, tout ça, c'est vrai que le Rome, c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier, j'ai envie de te dire.
C'est vrai que le jour où on se permettra de faire un album. Avec un concept album avec des morceaux qui excèdent 8-9 minutes, un petit peu comme nos influences, hein. Y a des gens qui l'ont fait dans les années 70, Kunta, on a essayé de faire un album qui nous ressemble, mais c'est un album avec des titres quand même un petit peu soumis aux règles, voilà, du fait qu'il faut faire des titres de 3:30 bien tranchants, qui racontent plein d'histoires. On a essayé de mettre du lien avec des entrepistes, etc. Mais peut-être
ce qui est dommage, c'est qu'il manque le côté psychédélique de votre musique, du coup.
Bah
la trance, tu vois.
Peut-être que le jour où on sera peut-être plus confiant, plus installé, on aura peut-être moins besoin de prouver des choses avec des titres de 3:30. On se permettra de faire des grandes plages de 9 minutes avec des morceaux concept et puis peut-être un album avec des grandes plages, voilà, où. Moi, je pense à Zappa qui faisait ça. Tu mets le diamant sur le début du disque et puis t'arrives à la fin du disque, t'es obligé de retourner le disque pour avoir la suite du morceau. Ce serait intéressant dans Kunta de construire des vraies choses. Moi, j'ai des influences de Mike Patton avec Fantomas qui faisait ça avec des supports BD. Kunta, ça pourrait vraiment être là-dedans. On pourrait aller là-dedans. Après, faut être clair. Nous, on a un jeune groupe, on a des choses à dire, on a des choses à prouver, et en tant que jeune groupe, quand on arrive en studio, on nous dit il faut faire 10 titres max, il faut faire des titres qui soient programmables en radio, voilà, radio friendly, qui soient playlistables sur les Spotify, etc., etc. Alors on s'est plié à ça, mais ça ne nous a pas du tout enlevé notre créativité, notre pôle. Et puis, c'est sûr que si on avait un studio à la maison et qu'on vivait tous ensemble en communauté, on ferait des grandes choses avec des grands concepts. Voilà.
Et des bébés.
Alors là, il y a déjà pas mal de bébés dans le groupe. Hein. Là, il y a déjà presque autant de bébés que de membres de groupe. Voilà. Mais Yovan et moi, on est bons derniers. On est bons derniers. Non. Le bassiste, il attend son deuxième. Le batteur, il a un premier enfant. Et c'est vrai que... C'est vrai que la musique, par rapport à la génération qui arrive, ça nous questionne. Moi, j'ai envie de faire des disques pour les enfants de mes potes. C'est vrai que... Tu vois, là, je me dis, si je dois mourir demain, s'il m'arrive un truc vraiment grave, je pense que tout mon matos, je le lègue aux enfants de mes potes. Je pense que c'est vraiment ça, ce qui va suivre, le questionnement à venir, c'est les enfants des gens de Kunta. Et c'est vrai que s'il y a des guitares et des amplis à faire et des choses à raconter, bah c'est la génération d'après. Hein. Nous, on est un peu sur les cendres des années 90. On est né dans les années 80, on est passionné des années 90, on essaye de revivre ça et de fusionner ça avec ce qu'on a écouté en culture free, en culture jazz, etc. En tout cas, je pense que là, il est temps vraiment que les gens viennent au concert et qu'on ait plus d'expériences comme on a vécu ce soir, c'est-à-dire des rencontres entre public, entre une musique live, et pour que la musique elle puisse se faire aussi dans ces conditions-là et qu'elle puisse se réécrire et qu'elle puisse se construire. Et je sais pas comment toi tu l'as ressenti en tant que journaliste. Mais
moi je serais pas venu vous interviewer si c'était de la merde.
Voilà.
Enfin si je m'étais ennuyé.
En tout cas, je sais pas si ce qu'on a fait c'était hors du commun ou de la merde ou à peu près bien ou tout ça, mais en tout cas, ce qu'on a fait c'est essayer de faire un spectacle pour que les gens ils puissent avoir des choses à regarder et à écouter pendant une heure et demie. Et voilà, que ce soit peut-être difficile à appréhender parfois, peut-être un peu cool et facile, avec du kick sur tous les temps, que les gens y dansent, etc. Mais le début du set qu'on a fait, c'était peut-être un peu exigeant. Il y a des textes qui ont du sens, il y a des arrangements qui sont peut-être un petit peu complexes. Et puis après, voilà, on lâche un peu les chiens, on fait de la zik pour danser, pour se rassurer. Voilà, moi je suis très content de jouer sur une heure et demie où il y a plusieurs phases.
En tout cas, c'est effectivement un beau spectacle. Vous êtes beaucoup sur scène. Ça, c'est clair que déjà, ça fait plaisir. Beaucoup d'instruments. Et puis, effectivement, c'est vraiment une musique à voir en live, moi, je pense. Parce que, au moins, ça dure un moment. Nous, on fait partie d'une radio associative, RDIWA, pour la citer encore une fois au micro de RDIWA, justement. Mais les radios associatives, le format 330, c'est pas ce qui nous fait kiffer. Et donc, si vous pensiez, par exemple, être sûr d'être programmé sur une grande radio, ben, des fois, tu fais du format 330 et t'es pas programmé sur les grandes radios, alors que les autres le prendraient. On peut se quitter comme ça. Vous avez des réseaux, des trucs. Faut balancer toute votre com là.
Bah, Insta, Kunta Band sur Insta et puis sur Facebook, c'est pareil, je crois. Kunta Band à Lyon, de toute façon, voilà. Kunta.
Et de toute façon, vous avez Kunta musique, kunta.fr, vous tombez sur le site. Et sur le site, ce qui nous intéresse principalement, c'est de mettre une vidéo de nous et les dates de concert. Donc les dates de concert, il n'y en a pas pléthore. On va jouer en septembre à Mâcon. Et on espère avoir plein de dates l'année prochaine.
Mais et comment on vous book alors?
Ah bah, vous nous bookez en allant sur www.kunta.fr/.
Sur le site, on peut vous.
Voilà, Kunta, c'est KUNTA, et là, vous nous trouverez.
Merci, les gars.
Bah, merci à toi.
Merci à toi. Merci.